comme d'habitude, il y a le moment suspendu qui vous permet d'être dans le suspense. Et voilà l'œuvre que je propose à votre sagacité. Voilà. Alors, c'est donc un tableau du XVIIe siècle. Maintenant, à vous de jouer. Alors là, vous commencez par la fin.
Bon, huile.
Alors, oui, ça, on sait que c'est un tableau, oui. Vous dites donc le roi boit, c'est-à-dire.
C'est une scène d'histoire ou de genre.
Non, c'est une scène de genre.
Ça peut être l'épiphanie.
Ils sont.
Alors, vous savez que nous essayons d'avoir une méthode dans cet atelier. Donc, avant de dire déjà quel est le sujet, on essaie de le décrire, parce que c'est peut-être ça qui va permettre de savoir de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur l'œuvre qui est là ?
Beaucoup de personnages.
Beaucoup de personnages, ok, les enfants.
Autour de table.
Oui.
Ils font la fête.
Hein. Ouais, ils font la fête.
Une beuverie, il y en a un qui dégueule.
Absolument, une beuverie.
Ah oui, c'est vrai. Absolument.
Même les enfants là-dedans.
Il y a des enfants,
des animaux. Le chien, il boirait bien un petit coup.
Le chien boirait bien un petit coup, le chien que vous voyez au premier plan, hein, effectivement. Il y a un chat aussi.
On a l'impression que ça tient à peine dans la toile, que ça déborde.
Hein.
Il y a même un miroir avec deux personnages.
Oui, un miroir qui reflète deux personnages, oui.
Pour rajouter encore.
Oui, comme pour rajouter encore, effectivement, à ce qui se passe dans la pièce.
Un décor très chargé.
Oui, un décor lui-même très chargé, effectivement.
Les tons sont chauds.
Oui, des tons chauds. Décidément, une ambiance festive dans tous les sens du terme.
Des bons enfants, apparemment.
Bon enfant, presque plus que bon enfant.
Peut-être un petit peu meilleur.
Peut-être un peu
paillard.
Oui, je crois qu'on peut le dire. Parce qu'on nous a parlé de ce détail, pour le moins.
Il y a l'autre qui mange voulument.
Oui, qu'est-ce qu'il mange d'ailleurs, à votre avis?
Un filet de poisson.
Ça doit être un filet de poisson, oui. Oui. On ne peut pas dire que ce soit avec une élégance.
Non, ils n'ont pas de tenue.
Voilà.
C'est très notre tenue.
Non, vraiment pas de tenue.
Voilà, il est en train visiblement de manger un filet de hareng, de le gober tout cru.
Oui, et puis les deux derrière lui, là, ils sont goguenards quand même.
Oui, ils sont goguenards et même un petit peu plus.
Et même débraillés.
Ouais.
Oui, c'est une orgie dans tous les sens du terme.
Voilà, il y a un côté vraiment.
Orgiaque.
Voilà, orgiaque, très libre. Ouais.
On se lâche.
Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre encore ?
La lumière braquée sur une femme.
Effectivement, il y a une lumière qui arrive peut-être de là, alors qui prend en écharpe celle-ci, celle-là, celle-là, et le monsieur au bout, qui est le fameux roi qui boit, dont vous parliez dès le départ. Hein.
On voit d'abord
ce qu'il y a en haut, c'est une denture, c'est une.
En tout cas, il y a un décor avec un fronton sculpté, il y a peut-être une denture, effectivement, il y a une fenêtre avec des vitraux.
Il y a une écriture aussi en
haut. Oui, absolument.
Donc c'est dans un milieu très, très aisé.
Pardon ?
C'est un milieu très riche.
C'est un milieu très riche, oui, en tout cas bien aisé, oui. Oui.
C'est pas très relevé quand même.
Pas très relevé. C'est effectivement un peu quoi d'ailleurs ?
Paillard.
Un peu vulgaire, oui. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez d'autre encore ?
Ben, y a des gens de tous les âges.
Oui.
Et puis des trognes, en fait.
Des trognes ?
Oui. Ils sont. Là, les portraits bien.
La jeune femme au milieu n'a pas l'air de. Elle a un regard dans le vague.
Oui.
Et elle nous regarde, en fait.
Oui.
C'est la seule.
Oui, alors absolument. Elle a, vous voyez, une pipe. Ouais. Elle n'est pas la seule.
Oui.
Tout y passe, hein. On mange, on boit, on fume, et le reste. Et puis.
Encore.
Oui.
Il y a aussi des objets par terre.
Ouais.
Il y a des natures mortes.
Ouais. Ouais. Ce qui continue par là. Et puis. Pardon ?
On n'a pas tout dit ?
Non, il y a une chose qu'on n'avait pas dit, à mon avis.
La collerette du monsieur, ou de la, du monsieur, je pense, qui est à gauche, là, il a une collerette comme sous...
Lequel ?
Vers la chaise en rotin.
C'est une dame.
Ah, c'est une dame.
Une dame suffisamment édentée, d'ailleurs. Oui,
j'ai une dame. Il y a avec ça,
c'est assez réaliste, en fait.
Oui. Ah bah,
oui.
Oui,
les visages. Oui,
c'est réaliste. C'est une rite, par
exemple. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas ?
Au centre, en plein centre, il y a un personnage.
Oui.
Il lève son verre.
Celui qui est devant, là, qui lève son verre ?
Non,
qui est... Il y a celui qui est devant qui lève son verre, mais il y en a un à l'arrière.
Il lève le verre aussi, un verre de bière, on dirait.
Oh oui, oh, tous les verres, ça va être plus ou moins des verres de bière.
Non, il y a des flûtes.
Il y a peut-être du vin.
Non, parce que dans le verre, son verre, il s'est un peu orangé dedans.
Oui, le roi, c'est plutôt du vin.
Oui, peut-être.
Non, mais le monsieur au fond, oui.
Mais il a un casque, il a un chapeau bizarre.
Il y a une espèce de chapeau un peu bizarre. C'est quel genre de figure, ça ?
Grotesque.
Et dans cette culture du XVIIe siècle, qui n'est pas très loin du Moyen-Âge, c'est une figure qui évoque quoi ?
Un bouffon.
Le bouffon, mais encore ?
Le fou.
C'est une sorte de fou qui est là et qui, j'allais dire, domine la scène et qui montre, quelque part, la folie qui s'endroit à l'assistance. Alors, vous disiez tout à l'heure, quand la photo était apparue, vous parliez du roi bois. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il a une espèce de couronne.
Alors, il y a effectivement à droite un personnage qui a une couronne, oui, et qui boit. Donc, bel et bien, il y a un roi qui boit, le roi bois. Mais ça évoque quoi ? À quoi ça fait référence ? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ?
C'est janvier,
Ça évoque surtout un type de fête où il se passe la même chose que dans l'épiphanie. Il se passe quoi, par exemple ?
Le roi des fous.
Et qui est élu comment ? Comment est-ce qu'un roi devient roi dans ce genre de fête-là ? Pardon ?
Le hasard,
mais quel hasard ?
La fève.
La fève, c'est-à-dire c'est la découverte de la fève dans un mets, notamment la fève, le haricot, qui fait que le roi devient roi. Donc là, l'homme que vous voyez à droite a manifestement trouvé la fève, il est donc le roi, et il est, dans cette espèce d'atmosphère de folie, hein, il est donc déclaré roi. Un roi d'un jour et un roi qui n'en est pas un, mais qui en est un en même temps, puisque de toute façon, tout est cul par-dessus la tête.
Il a trouvé une reine aussi.
Peut-être.
Peut-être celle qui nous regarde là, elle a peut-être une couronne, ou je sais pas.
Non, celle-là ?
Oh, elle a une sorte de...
Oh, elle a quelque chose. Voilà.
Elle se tient un peu mieux que les autres quand même, on dirait.
Oui, un peu mieux. Ouais, oui.
Il y en a au moins une pour rattraper
les autres.
Mais la vieille qui est à gauche, elle ne fait pas pendant au roi ?
On peut se demander effectivement si cette dame-là n'est pas l'épouse de celui-là, par exemple. Encore qu'il y en a une là qui lui correspondrait bien aussi. Hein.
Oui, elle est pas mal aussi.
Elle est pas mal non plus. Alors effectivement, ce tableau s'appelle, vous le disiez dès l'entrée, le roi bois. Parce que ça fait allusion à cette espèce de fête populaire où, par la découverte d'une fève dans quelques gâteaux ou tourtes, une des personnalités de l'assistance devient roi. Quel est le sens d'un tableau tel que celui-là ? Quel est le but de l'artiste quand il représente ça ?
Un témoignage de la la vie à son époque, enfin.
Oui. Alors, c'est effectivement un témoignage de la société, de la vie à cette époque, oui. Et puis encore.
La tradition, oui, la tradition.
Il y a un certain regard sur une tradition, sur des traditions, on va dire plus ou moins populaires, même si on est dans un milieu qui est convenable, dirons-nous.
Ça, c'est toi aussi pour mettre l'accent sur une dérive, sur quelque chose de
pas bien, en fait.
Donc, une manière de souligner des dérives, ouais. des défauts, des manquements. Oui. Ouais.
Un peu moralisateur.
Pardon.
Une
dimension moralisatrice, c'est une manière de montrer la déchéance et la décadence.
Mais c'est quand même pas une peinture d'église.
Mais c'est pas une peinture d'église. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est cette manière de montrer une certaine déchéance est assez équilibrée, en quelque sorte. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, enfin... Je vois pas très religieux.
Ah, ça, c'est pas religieux du tout.
C'est moralisateur, mais c'est...
C'est moralisateur, mais pas trop, c'est ça.
Voilà.
Il doit être très bonne image de la nature humaine, surtout.
Ah oui. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire ça à 100%, si j'ose dire ?
Non. Je les trouve plutôt sympas.
Pardon ?
Je les trouve plutôt sympas. Très joyeux gris. Là.
Oui, oui.
C'est pas une illustration.
J'ai pas l'impression d'une leçon de morale.
Oui.
Ils sont joyeux, ils font la fête. Bon, d'accord, ils se tiennent pas tous parfaitement avec beaucoup d'élégance, mais non, je les trouve pas. Je ne pense pas ça pour une leçon de morale.
Oui. Oui, vous disiez, pardon.
Que c'était une illustration de la débauche.
Oui.
Pour exprimer la débauche.
Mm-hmm. Alors, vous avez un peu raison ensemble. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, de ce genre de tableau, au-delà qu'il illustre une fête populaire, une tradition, au-delà qu'il prend en compte... D'une certaine manière, la société du temps nous fait entrer dans un intérieur cossu de quelques bourgeois d'une ville ou d'un bourg, qui est gentiment meublé. Hein. C'est effectivement de montrer à la fois une sorte de déchéance du monde, mais en même temps de s'en... Comment dire une manière aussi de célébrer un genre de jouissance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a, dans une œuvre telle que celle-ci, un peu les deux en même temps. C'est une manière, effectivement, de pointer du doigt ce que les hommes sont capables de faire, qui n'est pas toujours d'une élégance extrême, effectivement. Et puis, en même temps, c'est une manière quand même de se réjouir de cela. Comme vous dites, finalement, ils ont l'air assez sympas, quoi. Voilà. Ils s'amusent. Alors, l'élégance n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, d'accord. Mais vous aurez peut-être remarqué que c'est assez fréquent dans les rassemblements humains. Et donc, voilà, c'est une manière, j'allais dire, empathique, et pas antipathique, hein, de montrer du doigt ce que les hommes peuvent faire, qui ne les entraîne pas toujours vers le mieux d'eux-mêmes, si vous voulez. Hein. Mais c'est en rien une peinture morale qui aurait l'air de dire « Oh là là, voyez ces horribles personnages, faites pas comme eux hein. ». C'est quelque chose qui est à la fois une manière de tenser les débordements humains, mais en même temps de s'y associer joyeusement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très typique de cette peinture au XVIIe siècle. Une manière à la fois de rire la déchéance humaine, et puis en même temps de, d'en faire partie, tout en essayant de ne pas aller trop loin. C'est vraiment quelque chose qui est une manière finalement un peu ambiguë entre l'empathie et la morale. Voilà. Vous avez une idée de l'auteur de cette œuvre ?
C'est le Nord.
C'est le Nord.
C'est David Flamand. Tenier. Pardon ?
David
Tenier.
Oh non.
Non.
Si je pourrais être. Ça pourrait être un
peu. Vous qui avez trouvé le nom de l'auteur, vous avez peut-être le nom de l'artiste ? Non.
Je trouvais qu'il y avait une certaine hiérarchie dans les personnages autour de la table
ouais.
qui sont éclairés. Et puis derrière, bien sûr, il y en a un énorme, bien sûr, mais il y en a derrière. On a l'impression qu'on a fait venir les serviteurs. Ou les...
Ah oui, c'est-à-dire qu'il y aurait au centre les maîtres et tout autour les... Oui, d'ailleurs, c'est une manière aussi de montrer une certaine, communion sociale, voilà. Qui n'est peut-être pas non plus étrangère à ce qui se passe dans ces territoires au XVIIe siècle. Donc vous disiez comme territoire la Flandre, c'est ça?
Oui,
je me rappelle de la bière. Oui. Vous parliez de David Teniers,
numéro 2,
qui est effectivement un artiste qui a beaucoup donné dans ce genre-là. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées?
Jordaens.
Jordaens. Ok.
Rubens.
Rubens. Eh bien, c'est...
Jordaens.
Jordaens, le roi bois. Très bien. Cette œuvre de Jordaens, décidément, est une œuvre très typique de lui. Très typique, encore une fois, de ce que vous avez dit, d'ailleurs, et que j'essayais de résumer après, c'est-à-dire cette sorte d'ambiguïté volontaire et très riche de la peinture flamande au XVIIe siècle qui, encore une fois, se réjouit de la déchéance humaine et qui fait la morale, mais tout en essayant tout de suite de la battre en brèche, si vous voulez. C'est vraiment ça l'idée de ce genre d'œuvre. C'est donc pas une œuvre moraliste, c'est pas l'inverse non plus. Et Jordaens, il est vraiment très souvent sur cette posture-là dans toute son œuvre. Et puisque c'est un artiste assez jouissif, je me suis dit que c'était bien de faire cette dernière séance avec Jacob Jordaens. Donc c'est sur lui qu'on va travailler. Surtout qu'il est quelque part très très représentatif de la peinture flamande du XVIIe siècle. Justement, si vous aviez en quelques phrases, en quelques mots, à me synthétiser ce que c'est que la peinture en Flandre du XVIIe siècle. Au niveau de sa création, qu'est-ce qu'elle produit, mais également au niveau de, je dirais, du contexte dans lequel elle le fait, vous diriez quoi? Ce territoire qu'est la Flandre au XVIIe siècle, qui est un grand territoire créateur sur le plan pictural, comment est-ce qu'on pourrait le caractériser? Pardon? Alors, effectivement, la Flandre, c'est un territoire de commerçants, de marchands. Et de marchands de quel genre? Enfin, si vous aviez à qualifier ces marchands et la place qu'ils ont à l'époque, vous diriez quoi?
Plutôt protestants.
Pas que.
Pas que.
Avec les Espagnols,
là.
Juifs.
Aussi.
Ils sont nombreux.
Oui.
Ils pratiquent avec des tas de pays différents.
Oui.
Parce qu'ils ont beaucoup de juifs.
Oui. Donc un commerce très actif, parce qu'on peut être commerçant, mais on peut vivoter dans un gourbi, puis vendre trois petits pois par jour. Voilà, donc voilà, un commerce extrêmement dynamique, extrêmement qui est très ouvert sur l'extérieur. Voilà. Et effectivement, un commerce assez florissant. Qui fait de la Flandre, ça n'est d'ailleurs pas une invention du XVIIe, ça existe depuis le Moyen-Âge, c'est pas nous autres bourguignons qui avons été flamands, avant que les flamands aient été bourguignons, qui avons oublié ça. Si la Bourgogne a été ce qu'elle a été au Moyen-Âge, c'est bien grâce à l'alliance de la Bourgogne et de la Flandre. Une Flandre qui est déjà au Moyen-Âge et super dynamique sur le plan économique. Et ça continue au XVIIe siècle. Et cette espèce d'opulence, on la voit bien dans une œuvre telle que celle-ci. Une sorte d'opulence flamande, qui n'est pas non plus, hyperbolique, mais qui est vraiment bien installée. Il y a une espèce d'embourgeoisement de la Flandre via le commerce, via les affaires, que l'on sent bien là-dedans. C'est vrai. Donc ça, vous avez raison, c'est quelque chose qui marque bien, je crois, une certaine ambiance de la Flandre à l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore?
Il y avait une compagnie de, pas des Indes, mais des équivalents pour...
Oui.
Donc avec beaucoup de commerce avec les nouveaux territoires.
Oui, donc décidément, un commerce international plutôt fructueux. Ok.
Oui, mais sauf qu'à l'époque, on a quand même deux Flandres. On a la Flandre plutôt nordique qui est très proche des provinces unies, et puis une Flandre méridionale qui est toujours sous influence espagnole.
Alors, c'est vrai.
Donc, il y a deux influences quand même.
Alors, c'est vrai que, peut-être même davantage, hein, c'est vrai que la Flandre n'est pas du tout un territoire uni et homogène. Il y a là, finalement, un territoire assez émietté, où on pourrait presque dire que chaque ville est une principauté. Hein. Donc la Flandre est une sorte d'Italie en petit, si j'ose dire. Hein. Même si tout cela a une certaine cohérence, c'est une cohérence de conflits des uns côté des autres. Donc effectivement, on n'a pas là un territoire uniforme, on a un territoire qui a sa cohérence, mais une cohérence qui est quelque part puzzleisée, en quelque sorte. Hein. Ok. Et puis quoi d'autre encore?
Ils sont sûrement très sérieux dans le travail, mais ils n'ont pas honte de profiter, de faire une fête qui est peut-être pas la plus raffinée du monde, mais où tout le monde s'amuse et ils s'empiffrent, il faut bien le dire.
Oui, oui. Et vous diriez, si vous aviez à trouver un mot pour expliquer cette sorte de... cette manière, effectivement, cette ouverture, on dirait quoi?
Une sorte d'épicurisme.
D'épicurisme, oui.
Défoulement, oui.
De défoulement,
non.
Peut-être.
Bacchanal.
Oui, alors là, sans doute, mais de manière plus générale, si on se détache un peu du tableau et qu'on essaie de voir finalement le faciès de la société flamande du temps, c'est effectivement une société où, voilà, on est sérieux, les affaires c'est les affaires, hein, mais d'un autre côté, on n'hésite pas à s'amuser.
On est content de son sort.
Oui.
Et ouais. Ça donne des possibilités. Mmh.
Il est bon vivant.
Bon vivant, oui. Mais justement, ça traduit quoi, ça? Parce que c'est bien d'être bon vivant.
L'aisance.
Mais, pardon?
L'aisance.
Une sorte d'aisance. Mais l'aisance, quelquefois, elle existe. Mais on n'a pas forcément la possibilité de faire ça.
Mais c'est pas la noblesse, c'est les commerçants, en fait.
Oui, oui.
Donc, ils savent moins se tenir que la noblesse, et peut-être... Et...
C'est pas faux. Il n'y a pas forcément les mêmes codes que la noblesse que l'on trouverait dans nos territoires, ne serait-ce que la France proche. C'est vrai. Ou peut-être qu'on trouvait le même genre de choses.
Bon, oui, voilà. Peut...
Mais peut-être que ça souligne aussi une attitude.
Une acceptation de la nature humaine telle qu'elle est.
Voilà, je pense que...
Qui peut aussi se conduire comme ça.
C'est ça, je crois qu'il y a effectivement une grande, comme vous dites, une grande acceptation de la personnalité, de la nature humaine, qui est finalement une sorte de corollaire de la liberté aussi. Hein. Ces territoires sont des territoires où l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté est vraiment très en avance, hein, par rapport à d'autres territoires européens. Hein. Il y a une sorte d'ouverture d'esprit, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il y a des choix parfaits, etc. Mais la Flandre, ou les Flandres, disons comme cela, sont évidemment un territoire où il y a une sorte de, ben oui, d'ouverture d'esprit qui est très très forte dans cette Europe du XVIIe siècle. Et puis, si on parle maintenant de la production picturale, alors ce tableau peut nous inviter à le voir, mais c'est surtout ce qu'on va voir maintenant qui va permettre de l'illustrer. Mais comment est-ce que vous voyez la production picturale en Flandre à cette période?
Elle est pour la population générale et bourgeoise. Est...
Oui, ouais. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de peintres. Parce que cette Flandre est opulente, marchande, très ouverte.
Et les formes sont plus variées qu'ailleurs.
C'est-à-dire
ben, par exemple, il y aura des natures mortes en quantité importante.
Oui, oui. Et quoi d'autre encore?
Des histoires comme celle des Bruegel, par exemple, qui représentent des scènes de la vie courante, très courante. Même.
Oui, oui. Oui, et encore, comme peut-être
des
ça,
d'ailleurs. Des
oui.
Franz Hals, par exemple.
Oui, alors, qui est plutôt hollandais, mais c'est absolument.
Oui, mais,
oui. Oui, mais c'est la même chose. On est proche, absolument. Oui. 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 Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important, effectivement, puisque cette Flandre est opulente, a des facilités, sans bourgeoise, puisqu'en plus on a l'esprit large et libre, la production picturale va être nombreuse et très ouverte. Et aussi, vous venez de le dire, très spécialisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir, outre certains artistes, dont Jourdain, justement, qui sont un peu, j'allais dire, multidomaines, la peinture va beaucoup se spécialiser. Il y a ceux qui font des natures mortes. Et d'ailleurs, dans les natures mortes, il y a ceux qui font plutôt les bouquets, par exemple. Hein. Il y a ceux qui vont faire, au contraire, des paysages. Il y a ceux qui vont faire des portraits. Il y a ceux qui vont se spécialiser dans la grande peinture d'histoire. Il y a ceux qui vont faire plutôt la peinture de genre. Bref, il y a une sorte de spécialisation de la peinture. Et la Flandre est vraiment une sorte de creuset où, en Europe au XVIIe siècle, on assiste à une espèce d'organisation de la peinture qui vient ne théorise pas forcément. C'est plutôt les Français qui vont théoriser ça. Hein. En France, on est cartésien, on met dans les cases. Hein. Mais il se trouve qu'en Flandre, on va effectivement avoir une espèce de peinture qui s'organise selon ces genres que vous venez de dire. L'intérêt avec Jourdain, c'est que quelque part, il les accumule tous. D'ailleurs, dans un tableau tel que celui-ci, vous voyez, je ne sais pas, la scène de genre, vous voyez des portraits. Parce que certaines des figures que vous avez là sont les portraits de certaines figures particulières. Vous voyez de la nature morte, il y a de la peinture animalière, il n'y a pas de paysage. Enfin, c'est bien tout ce qui manque. Hein. Donc, on a là finalement une peinture qui, en une œuvre, quelque part résume ça, et c'est le cas de tout travail de Jourdain. C'est pour ça qu'on va aujourd'hui se centrer sur cet artiste. Et on va regarder une vingtaine d'œuvres, en commençant par celle-ci. Quid ?
Prométhée.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours pareil. Évidemment, c'est Prométhée, mais avant de voir que c'est Prométhée, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, un aigle qui dévore un personnage qui est à terre. Bon.
Qui est enchaîné.
Et qui est enchaîné. Donc, il s'agit de Prométhée enchaîné, effectivement. C'est qui ?
Celui qui a donné le feu aux hommes.
Et voilà. Prométhée, c'est celui qui a donné le feu aux hommes. Il l'a donné comment ?
Il l'a volé.
Il l'a volé. Et ça se fait, ça ? Eh bien, ça se fait pas.
Surtout à Zeus.
Et surtout à Zeus, surtout au dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il est puni.
Il est puni, et il est puni comment ? On lui mange son foie, mais c'est qui lui mange ?
L'aigle.
Donc l'aigle arrive, il mange son foie, puis c'est réglé.
Non.
Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que l'aigle a ouvert l'abdomen de ce pauvre Prométhée, et qu'il en a dévoré le foie repousse, et l'aigle revient pour réarracher le foie, et ainsi de suite. Ça recommence en permanence. Donc effectivement,
plusieurs fois.
Éternellement. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris. Ça, il faut le temps. Bien, Prométhée enchaîné. Très bien. Donc une scène tirée de
mythologie.
Super.
Un portrait, 100%
portrait.
Ça doit être un saint. Un saint.
Alors, c'est un portrait ou c'est un saint ?
Ben,
c'est les deux. Donc c'est un portrait qui est en fait celui d'un saint ou un saint qui prend les traits de quelqu'un dont on a le portrait. Ok. Ça, on a vu ça souvent. Hein.
Oui.
C'est pas la première fois. Hein. Ok. Alors, ce serait, je ne sais pas, vous avez une idée d'un saint ou d'un... C'est difficile de dire, hein, mais d'un type de saint.
Il prie forcément.
Oui, il prie avec ferveur.
Avec ferveur.
Oui.
Un certain âge.
Oui. Bon, difficile de dire de quel saint il peut s'agir, il n'y a pas d'attribut. Hein. Mais il prie effectivement avec ferveur. Voilà. Là aussi, si vous aviez à qualifier l'œuvre, vous diriez quoi ?
C'est naturaliste.
Voilà. Alors je dirais réaliste parce que le naturalisme. Alors c'est vrai, naturaliste. Hein, mais le naturalisme, c'est. Le réalisme aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment. Un mot qu'on emploie pour une certaine peinture réaliste en France dans la deuxième moitié, enfin, pas encore France en Europe, dans la deuxième moitié du 19e, mais c'est vrai, on peut mettre naturaliste avec un petit R, si je veux dire, ou réaliste avec un petit R, absolument. Très bien.
C'est toujours du même auteur.
Tout ce que nous allons voir est de Jacob Jourdain. Ça peut sembler différent, je ne sais pas si c'est donc ça, mais on va voir. Alors.
Une famille, un père, une mère,
et un enfant, et un chien, une famille.
Ils sont pieds nus.
Pardon ?
Ils sont pieds nus.
Ils sont pieds nus.
Il a un
barda
sur le dos.
Oui,
il a un barda.
Oui, il a un sac à dos, c'est très porté. Vous savez.
C'est pas une
voilà. Oui, oh oui, c'est une sorte de panier, je crois, qui contient sûrement des tas de choses.
Ce qui est surprenant, c'est que la dame, elle a une très jolie toilette, mais que celui qui semblerait être le père, lui, on croirait à un vagabond.
Lui est un peu rustique, c'est vrai. Alors qu'elle est un peu attifée, avec un joli chapeau.
Du coup, je pense que c'est pas une famille.
Ah oui, donc vous pensez que c'est pas une famille?
Bah non, parce que vraiment, il y a une différence.
Elle est pieds nus aussi.
Elle est pieds nus aussi. Mais elle est coquette.
Au niveau des vêtements.
Ah oui, lui, on aurait dit un pèlerin, non, pèlerin, mais...
Oui, lui, à côté pèlerin, un peu rude comme ça, et elle était finalement un peu coquette, avec un joli chapeau.
Il semble qu'il ait du vent.
Du vent, peut-être, oui, parce qu'elle tient son chapeau.
La cape derrière.
Oui, qui s'élève. Puis c'est vrai que le ciel a l'air un peu tourmenté.
Ça pourrait pas être une fuite en Égypte, à pied.
Ah, donc ce serait en fait une fuite en Égypte. C'est-à-dire le moment où Saint-Joseph, la Vierge et l'enfant partent vers l'Égypte. L'enfant est trop grand. Parce que c'est vrai qu'il est parti alors qu'il était élevé.
Oui, oui,
donc
oui,
ça ne colle pas, ça.
Oui, mais un peu
grand. On n'a jamais parlé d'un chien.
Et puis, il n'y a pas d'âne.
Et il n'y aurait pas de chien.
Et puis, il n'y a pas d'âne.
Et il n'y a pas d'âne. Bon.
Je remballe ma l'équilibre dans les jours.
Bon, alors ça ne va pas.
C'est pas une interprétation de ça.
Ah, ce serait peut-être une interprétation de la fuite en Égypte, alors. Avec des petites licences historiques, parce qu'en fait, décidément, on a l'esprit large. Hein. On ne va pas s'embêter avec un âne et un bébé.
Non, ça peut être aussi une allégorie, par exemple, comme elle semble plus riche avec cet enfant, de donner à un pauvre qui est là et qui...
Ah, donc ce serait plutôt qu'une représentation religieuse, une allégorie, peut-être à la charité, par exemple.
Hein.
Une dame et son enfant qui aident un pauvre air.
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal, ça. Hein.
Mais elle est pieds nus, quand même.
Pardon ?
Elle est pieds nus, donc, faire la charité.
Oh, ben, dans un pays où il fait chaud, de temps en temps, enlever ses sandales, c'est sympa.
Ça fait du bien de marcher pieds nus, le
chien. Bien. Donc, je vois qu'on a des...
Beaucoup d'imagination.
Ouais.
Oh, ça, c'est... Une dame à son bain.
C'est le même que...
Sa toilette.
Une dame à sa toilette.
Avec
non, deux voyeurs à droite.
On ne voit pas Suzanne Aubin.
Ah, Suzanne Aubin.
Oui, mais elle a déjà
la chaste Suzanne.
Elle a pas
non.
Non,
à l'époque.
Et puis c'est pas au bain.
Ah, c'est pas au bain, mais ça peut être après le bain.
Il y a toujours un petit chien, c'est curieux. Il y a toujours un petit chien. Sur les trois représentations, il y a un chien.
Ah oui, mais il y a toujours des... Chez Jordan, c'est rare qu'il n'y ait pas de chien.
Ah oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de chiens. Chez
il y a
le
vieux monsieur au fond, là, il a une couronne, non?
Il a...
On dirait qu'il a une couronne, le vieux monsieur au fond.
Oui, non.
Alors, il y a deux monsieur, hein. Il y a un monsieur... Oui, celui du fond a une couronne. Parce que celui de devant est plus jeune, effectivement, et l'autre derrière a une couronne.
Oui. C'est un roi.
Donc, c'est un roi.
Le décor est riche.
Riche décor.
Une sultane.
Dans son simple appareil.
Bézabé.
Et David. Celle que David a voilà, emprunté.
Emprunté.
Un peu plus qu'emprunté.
Il l'a pas rendu. Hein.
Non. Donc ce serait peut-être Bézabé et David, le roi David, là-bas, puisqu'il y a une couronne.
Oui, il y a une couronne, là.
Le troisième, c'est qui?
Un serviteur
qui écarte la tenture.
Et qui
se regarde
bien. Oui, il regarde bien. Oh, bah, autant regarder. Hein. Il y a de quoi regarder, en plus.
C'est lui qui joue les intermédiaires entre le roi et...
Entre David et la femme qui est au premier plan. Donc, ce serait peut-être un serviteur qui fait l'intermédiaire entre l'un et l'autre. Pardon ?
Je dis que c'était très réaliste. On voit même la cellulite.
On voit même
la cellule.
Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui, effectivement, très réaliste. En détail. Qu'est-ce que ça vous dit, alors, au-delà du sujet, par rapport à ce qu'on a déjà vu?
Beaucoup de détails.
Oui.
C'est pareil, c'est encore un peu vulgaire.
Oui, c'est ça. Il y a un côté, une sorte de trivialité, mais qui en même temps, j'allais dire, est une espèce de, malgré tout, de réalisme.
Si oui, 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 oui. Une liberté de...
Ben oui, une liberté de ton. Alors évidemment, le bon goût voudrait qu'on ne montre pas ça comme ça. Mais Jordin, c'est pas forcément un artiste qui répond à un bon goût classique, qui serait celui des Français à l'époque, par exemple. En France, vous n'aurez jamais ce genre de choses.
Il y a un bon travail sur les tentures et les tissus aussi.
Oui, oui, oui. Vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui travaille la nature morte en même temps que la peinture d'histoire. Parce que vous dites que c'est David et Bézabé, donc c'est une peinture d'histoire biblique, mais qui en même temps travaille, on va dire, la nature morte, le lit, les tentures, etc. Autre chose à dire là-dessus? Non, c'est bien.
Ça, c'est un satyre.
Un satyre. Où est-ce qu'il y a un satyre?
Il est assis.
À droite. À droite, il y a un satyre.
Il a les pieds fourchus.
Il a les pieds fourchus, il a des cornes.
Il y a un bœuf et un coq.
Oui, il y a un bœuf, il y a un coq là-haut.
Un chien.
Un chien, un chat. Un chien, ça, c'est décidément très fréquent.
Des enfants.
Des enfants. Comme tout à l'heure, on a l'impression que ça déborde du tableau. Hein. Oui. Enfin, c'est très jordancien aussi. Hein. Quelque part, c'est un baroque jordance. Hein.
Oui.
Hein, on est loin du classicisme qu'on a pu parfois évoquer ici.
La nature morte.
Nature morte, voilà.
Il montre l'intérieur chez un paysan.
Un intérieur paysan, effectivement, coq, vache. Oui. On est chez des paysans.
Oui, parce qu'ils vivaient souvent ensemble.
Voilà, avec les animaux.
Oui. Hein.
Un contraste très fort entre le teint du satyre et la dame si pâle derrière.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Et l'enfant, oui. Aussi.
Oui.
Oui, je sais pas.
Ah ben bah, qu'est-ce que fait le satyre ici?
Oui.
Je vous retourne la question. Qu'est-ce que fait le satyre ici?
On dirait qu'il est tente, il veut les acheter, les tentes.
Ah, il leur dit quelque chose, oui.
Ouais. Ça va pas du tout avec le reste.
Oui, oui, le satyre dénote ici.
Mm-hmm. Ils sont très attentifs.
Ah, ils sont très attentifs à ce qu'il est en train de dire.
Oui.
Ah, visiblement, il dit quelque chose d'important.
Le monsieur lui donne une clé.
Il tient une clé, la clé à la main.
Ah, exact.
Ah, ouais.
Okay.
C'est une clé?
C'est pas une clé.
C'est une cuillère.
Ah, c'est une cuillère qui porte avec sa bouche, d'accord.
Ah, il mange.
Qu'est-ce qu'elle a devant elle, la dame? C'est des fruits, c'est quoi? C'est toute une...
Des fleurs, non?
Ces choses qui brillent, qui...
Ça, il y a des fruits, elle amène une jatte avec des fruits.
Ah oui, c'est ça.
Ah, c'est des fruits.
Donc elle a invité le satyre.
Ben, donc elle a invité le satyre. Le satyre est invité à table. C'est sympa. C'est pas tout le monde qui a sur la satyre. Hein. Pas sûr que vous n'en ayez jamais reçu. Et voilà.
Alors on
ne
sait pas les reconnaître.
Oui. Peut-être. Aujourd'hui, ça va bien se cacher.
Il y a une dame estompée là-bas, tout à fait au fond à droite.
Oui. Elle est dans une espèce de cage en osier.
Elle est dans son...
Bah, c'est un fauteuil, en fait.
Oui,
c'est hein. Ça. Un fauteuil avec le dessus.
Derrière le satyre, je parle.
Là. Ici.
Oui, estompée,
oui. Oui, il y a une autre dame, effectivement. Bon, et alors, pourquoi est-ce que le satyre est là et qu'est-ce qu'il peut dire le satyre de ce monde-là? Ah, là est la question.
Il est souriant en même temps, mais il a l'air de se moquer. Ou
oui, oui, il dit quelque chose.
Il dit quelque chose,
hein.
Mais...
Ils
raconte.
Ils ont l'air heureux.
Mais tous les gens ont pas l'air, ils ont l'air relativement paisibles.
Contents de le voir.
Et contents de le voir, oui. Visiblement, ils sont contents de le voir. Ils l'invitent volontiers à table. Mais lui, il leur dit quelque chose. quoi, eh bien, vous le saurez un peu plus tard. Ah, c'est religieux.
Oui, ça, on peut dire religieux.
Le monsieur de droite qui ressemble à celui qui était tout à l'heure en portrait.
Ah oui, c'est intéressant ça. Celui de droite ressemble à celui qu'on a vu en portrait tout à l'heure, effectivement.
Oui, oui, oui.
Intéressant ça.
C'est peut-être l'artiste.
Pardon ?
C'est peut-être l'artiste.
Ah, est-ce que ce serait pas l'artiste ? Ça, c'est possible. Voilà une idée. Donc, on aurait une sorte d'autoportrait. Donc, tout à l'heure, notre saint, là, ce serait l'autoportrait du peintre, peut-être. Qui se serait re-autoportraituré ici. OK. Alors, vous avez dit, c'est religieux, mais c'est quoi ?
C'est un enfant qui lit la Torah.
Pardon ?
Un enfant qui lit la Torah.
Alors, c'est la lecture de la Torah.
C'est Jésus et les pères
de Jésus. De la loi.
Jésus et les docteurs de la loi, donc on aurait Jésus au premier plan et trois des quatre docteurs de la loi. Pourquoi pas ? Bon. En tout cas, une peinture religieuse. Dans laquelle on retrouve le portrait de tout à l'heure qui pourrait être l'autoportrait du prêtre. Très bien. Avec Jordan, il y a toujours des choses à dire. Hein.
Oui, parce que c'est coloré.
C'est coloré.
Ça surprend.
Ça surprend.
Oui.
Par rapport au reste.
Oui.
Intéressant.
Oui, parce que
et pourtant,
donne,
c'est lui.
Ça ne donne pas le même réalisme.
Ça ne donne pas le même réalisme.
C'est pas réaliste.
Ah ouais. Bonne réaction. Vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas vraiment pareil. C'est pas le même avis, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas pareil, quoi. Et pourtant, c'est lui.
Une influence.
Une influence.
Différentes époques.
Pas la même période.
Alors, il y a un problème de période et il y a effectivement un problème d'influence. En fait, ça vous rappelle plutôt qui, peut-être, ça ?
Rubens.
Ça vous rappelle Rubens.
Oui, oui.
Or, c'est Jordan. Why ? Pourquoi ?
Ils se sont rencontrés.
Ils se sont rencontrés, et même un peu plus.
Ils ont travaillé ensemble.
Qui a travaillé avec qui ?
Jordan.
Voilà, Jordan, ça a été un élève, un émule de Rubens. Il n'a pas été le seul. D'ailleurs, il y a un autre grand peintre flamand, de la même période, qui a aussi été, avec Jordan, un disciple, on va dire, ou un élève de Rubens. C'est qui ? Alors, un artiste, lui, très... très convenable, très élégant, très... un bec.
Van Dyck
et Rubens, et Jordaens ont été tous deux élèves dans l'atelier de Rubens. Et très vite, d'ailleurs, très collaborateurs et très très proches de Rubens. Voilà. Donc vous avez raison, là, on a une œuvre très très marquée par l'inspiration, l'influence rubénienne. Une œuvre qui représente quoi, d'ailleurs ?
Justement.
Eh oui.
Il
y a un ange
qui emmène
un
vieillard.
Ouais.
Il y a un calice dans la panière. Là.
Il y a des tas de vases, effectivement.
D'église.
Ouais.
Il y a une vieille femme qui pleure.
Ah oui, la vieille femme pleure. Tiens, il y a un chien. Ça vous étonne. Hein.
Ah oui.
Coloré, il regrette
sa
jeunesse,
qui ne veut pas partir. Il ne
veut pas
partir. Ah oui, c'est il y a une... on pleure, quoi. Ah, oui. Pas très heureux de partir.
Il
part où ?
Il l'accompagne...
Ah, donc ce serait le départ vers l'au-delà.
Oui.
Voilà.
Mais il ne veut pas partir.
Il veut pas partir.
Simplement.
Surtout qu'il regarde derrière lui.
Il y a deux jeunes filles.
Il y a deux jeunes femmes sympathiques. Très envie de partir.
Il y a des richesses dans un panier.
Ah oui, il y a des richesses dans un panier.
C'est peut-être encore Job qui abandonne ses...
Ah, ce serait Job, alors.
Ou Lot.
Ah,
Lot.
Lot et ses filles.
Oui.
OK. Lot avec ses filles Et qu'est-ce qu'ils font alors?
Il fuit la ville.
C'est quelle ville d'ailleurs?
Sodome.
Ouais. Donc ce serait Lot et ses filles qui suivent Sodome, avec ses filles et qui?
Normalement sa femme.
Sa femme. Ouais. Ben, elle va être transformée en statue. C'est au départ, quand il quitte Sodome, elle est encore là. C'est après, quand elle va se retourner, que paf, elle va être transformée en statue de sel. Donc si c'est bien ça, elle n'est pas encore transformée.
Il recommande de ne pas se retourner.
Voilà, c'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, on verra ce qu'il en est.
La différence de couleur entre les deux.
Ouais. On retrouve la palette jordanienne. Alors, qu'est-ce que c'est? Pardon?
Une dame qui a un port très altier.
Laquelle?
En haut à droite.
Ah, en haut à droite, oui.
Il y a plusieurs centres d'intérêt.
Oui.
Il y en a qui regardent
les enfants.
Tout l'enfant, il y en a qui nous regardent. Oui. Qui regardent en l'air.
Oui. C'est vrai, il y a des gens qui regardent en l'air les petits angelots ou les poutis qu'il y a là-haut. Il y en a qui regardent les enfants sur le devant. Il y en a qui nous regardent.
À gauche,
il y a effectivement plusieurs centres d'intérêt, comme vous disiez.
À gauche, c'est un musicien.
À gauche, un musicien qui joue d'un instrument, un genre de luth peut-être. Il y a un chien, bien sûr. Une nature morte. Une image de la maternité.
Une femme avec
les
trois enfants.
Ouais. Ah, une famille alors.
Ça fait réunion de famille.
Donc il y a un côté réunion de famille.
Il y a beaucoup de femmes.
La représentation d'une famille.
Il y a deux hommes et le reste c'est des femmes.
Oui, il y a beaucoup de femmes. Peut-être un petit garçon devant, ou deux.
Bon.
Ok, donc, une réunion familiale, où l'on a une petite collation, tout en écoutant de la musique et en voyant des poutis arriver. Tout ça en présence d'un chien. Ce qui est normal.
Dans un monde où on reçoit des satyres à sa table,
oui. Ça bah oui. Peut arriver. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Hein.
Oui, j'ai déjà fumé le chambre.
Très bien. Allez, un peu d'action.
Ah ben ça, c'est Jésus qui chasse les marchands du temple.
Ah, Jésus qui chasse les marchands du temple. Ouais. Ah ben je crois. Hein. Parce qu'effectivement, on voyait à droite, a priori, Jésus. Hein. Et alors, moi, ce que je puisse dire, c'est que il y a du commerce tout autour. Hein. Il les chasse assez bien. Là, vous voyez qu'il est en train de renverser un pauvre homme qui est en train de tomber à la renverse. Hein.
Puis, non, hein,
enfin, tout ça se fait dans l'abusement général. Hein.
Ah oui, c'est drôle.
C'est assez rigolo. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir une scène comme ça, présentée de cette manière?
Ça rappelle la première... Le premier tableau.
Ouais.
Ça fait vraiment version flamande
de la
terre. Oui. C'est de la vache. Hein.
Vous voyez, il n'y a ni le côté, comment dire, l'espèce de chorégraphie élégante qu'un Italien a mis là-dedans. Il n'y a pas l'impeccabilité structurée qu'un artiste classique français aurait mis. Il y a une espèce de doux bazar où tout le monde tombe dans tous les sens, y compris les victuailles. Mais tout le monde rigole ou hurle, gueule, je pourrais même dire. Hein. Voilà, la femme et l'enfant ont pas l'air bien apeurés. Le Christ lui-même, a pas l'air d'être trop violent, même si devant lui, ça s'écroule. Enfin, voilà, c'est effectivement, voyons des loin, une sorte de dramaturgie exacerbée, hein, soit par une structuration parfaite, soit par une élégance dramatisée. On est, effectivement, ça rappelle la peinture que vous voyez au départ. Effectivement. Même si c'est une scène biblique.
Je trouve, je ne sais pas si c'est le but de l'artiste, mais je trouve que ça met en évidence aussi la virtuosité de l'artiste.
Ah, certainement.
Ah, oui.
Il y a beaucoup de virtuosité. Et vous savez, on parlait de baroque tout à l'heure, c'est vraiment la peinture baroque, ça. Hein. Et donc, qui, effectivement, flatte le côté virtuose de l'artiste. Parce que vous avez regardez notamment au premier plan, ce personnage qui est en train de tomber à la renverse, hein. Là, il y en a un autre. Enfin, oui. faut y arriver. Je ne parle pas des chiens, bien sûr. Hein. Et des ânes, c'est moi un tableau pour moi. Ça. Enfin bref, il y a vraiment...
Il y a des détails. Oui, ça rappelle l'année de bœuf.
Ah oui, alors...